De la recherche.
Radio Campus.
Grenoble.
90.8.
Oyez, gentes dames et nobles seigneurs, voyageurs du temps et curieux des lettres, approchez, prêtez l'oreille à l'écoute de l'essentiel sur la 90.8 FM, il est 10h. Car il sera ici compté l'étrange naissance d'une mémoire, une cité s'élève devant nous. Paris, non point telle qu'elle fut, mais telle qu'un esprit l'a rêvée. Cet esprit est celui d'un écrivain. En son œuvre Notre-Dame de Paris, il forge de mots et d'ombres une ville ancienne, peuplée de cloches, de pierres et de destinées tragiques. Mais sachez ceci, ce Moyen-Âge que vous contemplez, n'est peut-être point celui des chroniqueurs. Il est celui d'un siècle, celui d'un regard, celui de Victor Hugo. Et c'est dans les replis de son manuscrit entre ratures et dessins que nous allons aujourd'hui pénétrer. Bienvenue dans les chemins de traverse de la recherche avec Clémence, Zoé et Clairly pour la technique. Nous recevons une chercheuse qui sonde un mystère, celui de cet écrivain du 19e siècle qui a transformé notre vision au Moyen-Âge. Entrons donc dans l'atelier de Victor Hugo avec Maria Julia, doctorante en études médiévales à l'université Alberta, Lisbonne, Portugal. Et membre, bien sûr, collaboratrice de l'Institut d'études médiévales de l'Université de Nova Uchi de Lisbonne. Alors, Maria, bonjour.
Allô, bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui. Merci à toute l'équipe aussi. Je suis très contente d'être ici. Merci.
Très bien, Maria. Alors, tout de suite, alors, on se dit, mais attends, quand tu ouvres le manuscrit de Victor Hugo, est-ce que, du moins, ce que vois-tu vraiment, je me dis, est-ce que tu lis ou est-ce que tu regardes ce manuscrit?
Alors, pour ma recherche, je regarde surtout. C'est très intéressant parce que le texte, c'est très complexe, mais ne change pas beaucoup. Alors, je regarde surtout les notes, les dessins, les corrections. Alors, pour ma recherche, c'est plus intéressant de regarder. Et après, je peux lire, mais je peux lire un livre normal, pas le manuscrit lui-même. Ouais.
Alors, tu as travaillé directement, on va dire, à la Bibliothèque nationale de France, de Paris. Et face au manuscrit original, est-ce que cela change la lecture?
Oui, c'est un privilège, je pense, de voir le matériel de Victor Hugo qu'il a écrit. Il a écrit et aujourd'hui, c'est un roman superbe. Et alors, c'est un privilège d'aller à la bibliothèque et lire et voir la lettre de Hugo et tout le processus du roman. C'est super.
Alors, pour entrer en plein dans cette émission, nous allons partir avec le fou de Notre-Dame pour tisser la première toile sonore.
Petite fille, vous ne vous moquerez plus quand vous verrez dans la rue Quasimodo le bossu. Il monte élu le pape des fous. C'est aujourd'hui le jour de la fête des rois. Et pour un jour, cela me donne tous les droits. M'aimeras-tu, Esmeralda? Tu t'en fous, Esmeralda. Oh, tu t'en fous qu'il m'ait élu. Le pape des en mimant Quasimodo avec sa bosse au dos. Qu'est-ce que ça vous fait que je sois si laid? Je hais la femme et l'homme qui m'ont donné le jour et m'ont abandonné sans me donner d'amour. M'aimeras-tu, Esmeralda? Esmeralda, oh, tu t'en fous qu'il m'ait élu. Le pape des fous, le pape des fous.
Véritable artefact culturel inscrit dans l'histoire des premiers enregistrements sonores, le fou de Notre-Dame, interprété par Marcelli de la Gaîté Rochois, une chanteuse populaire de café-concert. Alors, Julia, soyons un peu provocateurs. Alors, Hugo est-il historien ou illusionniste?
Alors, Victor Hugo, ce n'est pas un historien. Il est un romancier. Il utilise l'histoire pour créer la narrative, le récit, l'histoire. Il a beaucoup étudié pour faire ça, mais Notre-Dame de Paris, c'est une fiction. Alors, il est romancier. Il utilise l'histoire pour créer une ambiance et donner une sensibilité à l'histoire. Notre-Dame de Paris, c'est un roman historique. Alors, le roman historique, il utilise les sources historiques, l'histoire, pour créer la fiction. Alors, l'histoire donne une sensibilité à la fiction. Non, au contraire, pardon. Oui. Ah, ouf. Alors, je peux dire que Victor Hugo... Il n'est pas un historien. Il a beaucoup étudié, oui, bien sûr, mais il est un romancier. Il utilise l'histoire pour faire la fiction. Ouais. Et c'est ça le grand, comment je peux dire, c'est très chouette de lire un roman historique pour ça. C'est l'histoire, mais on n'a pas oublié que c'est une fiction. Et ce mélange, c'est super dans la littérature. Ouais.
Alors donc, ce Paris médiéval, est-il vrai? C'est quoi donc finalement le médiévalisme?
Alors, non, j'ai étudié ça dans mon master. J'ai comparé la Paris de Hugo et la vraie Paris. Et je peux dire, à mon avis, que Paris, c'est une bonne représentation de la Paris de Moyen-Âge. Mais ce n'est pas vrai, c'est une fiction. Notre-Dame de Paris, c'est toujours une fiction. Mais Je pense, à mon avis, que c'est une bonne représentation du Moyen-Âge. Ce n'est pas vrai, pas du tout. Mais il y a quelque chose, oui, on peut... Oui, c'est ça, c'est vrai, mais pas du tout. Pas tout, parce que c'est une fiction. Et alors, le médiévalisme, c'est quand l'époque plus récente évoque le Moyen-Âge. Par exemple, les jeux vidéo, de TV shows comme Game of Thrones, par exemple. Alors, mais le plus intéressant, c'est que l'époque a dit plus sur l'époque de que le Moyen-Âge lui-même. Tu comprends? Mm. Ouais. Alors, quand Victor Hugo parle sur Moyen-Âge, il parle plus sur le 19e siècle. C'est super. C'est ça. Alors, le médiévalisme, c'est quand les époques évoquent le Moyen-Âge au présent, mais le médiévalisme parle plus sur l'époque qui parle sur le Moyen-Âge. Ça fait un peu de confusion, mais c'est ça.
D'accord. Alors, si on met face à face, on va dire, une enluminure médiévale et une description de Hugo, alors, qu'est-ce qui change?
Alors, une enluminure médiévale est une représentation produite dans son propre contexte historique. Alors, la enluminure médiévale, elle va parler sur la religion ou sur la politique, mais au Moyen-Âge. Alors, la Paris, la description de Paris du Hugo, c'est une représentation, c'est un effort de décrire le passé. C'est différent. Alors, si on compare les deux, on peut voir comment une ville, Paris, peut être représentée de manière, différente selon chaque époque. C'est très intéressant. Alors, enluminure, c'est un témoignage direct du Moyen-Âge, parce qu'elle était produite au Moyen-Âge, bien sûr. Et la description de Hugo, c'est une reconstruction du passé au dixième siècle. Oui.
D'accord. Et Maria, c'est le moment de faire, la lecture d'un petit morceau du texte de ce manuscrit original de Hugo. On t'écoute.
D'accord. Ok, je vais lire un extrait du chapitre Paris à vol d'oiseau, où Hugo écrit la vie médiévale. Ce chapitre, je peux dire que c'est mon préféré parce que Hugo, il décrit Paris au Moyen-Âge et c'est super parce que le lecteur, il peut voir la Paris, il peut écouter les rues et il peut sentir les odeurs et tout ça. Alors, c'est super, ce chapitre, c'est mon préféré. Ouais, ok. Nous venons d'essayer de réparer pour le lecteur cette admirable église de Notre-Dame de Paris. Nous avons indiqué sommairement la plupart des beautés qu'elle avait au XVe siècle et qui lui manquent aujourd'hui. Mais nous avons omis la principale. C'est la vue du Paris qu'on a découvert alors du haut de ses tours. Le Paris d'il y a 350 ans, le Paris du XVe siècle, était déjà une vie géante. Au XVe siècle, Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées, ayant chacune leur physionomie, leur spécialité, leurs mœurs, leurs coutumes, leurs privilèges, leur histoire. La cité, l'université, la ville. La cité qui occupait l'île était la plus ancienne, la moindre, et la mère des deux autres, resserrée entre elles, qu'on en passe la comparaison comme la petite vieille entre deux grandes belles filles. L'université couvrait la rive gauche de la Seine. Son enceinte échancrait assez largement cette campagne où Julien avait bâti ses thermes. La vie qui était le plus grand de trois morceaux de Paris, avait la rive droite. Comme nous venons de le dire, chacune de ces trois grandes divisions de Paris était une ville, mais une ville trop spéciale pour être complète, une ville qui ne pouvait se passer des deux autres. Aussi trois aspects parfaitement à part, dont la cité abondait les églises, dans la ville, les palais, dans l'université, les collèges. La cité avait Notre-Dame, la ville, le Louvre et l'hôtel de ville, l'université, la Sorbonne. Ce n'était pas alors seulement une belle ville, c'était une ville homogène, un produit architectural et historique du Moyen-Âge, une chronique de pierre. C'était une cité formée de deux couches seulement, la couche romaine et la couche gothique, car la couche romaine avait disparu depuis longtemps, excepté au terme de Julien, où elle perçait encore la croûte épaissée du Moyen-Âge. Depuis, la grande ville a été se déformant de jour en jour. Le Paris gothique sous lequel s'effaçait le Paris romain s'est effacé à son tour. Mais peut-on dire quel Paris l'a replancé? C'est ça.
Super. Alors, on va faire appel à Hector Berlioz pour nous permettre de souffler un peu. Et nous revenons tout de suite avec la symphonie fantastique. Œuvre fondatrice du romantisme musical composée en 1830, elle rompt avec la symphonie classique. La musique raconte une histoire subjective, émotionnelle et dramatique. Et son auteur, Hector Berlioz, était bien sûr compagnon de Victor Hugo, Maria.
Oui, il était copain de Hugo. Et j'ai choisi cette symphonie parce qu'on peut penser que Victor Hugo a écouté. Mmh. Ouais, c'est son compagnon de 19e siècle. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. C'est un copain de Hugo.
Ça fait du bien tout ça. Ouais. Alors, à quoi ressemble ce manuscrit-là?
Alors, le manuscrit, c'est un gros livre. Et on peut voir l'écriture de Victor Hugo et je peux dire que c'est très difficile à lire. C'est très difficile à lire l'écriture de Hugo. Quand je vais étudier le manuscrit, je dois avoir le... Non, j'ai toujours le livre physique et le manuscrit. Alors je peux suivre parce que la lecture de Hugo, c'est très difficile de suivre. Ouais. Alors, et j'ai vu aussi l'organisation du texte. C'est très intéressant comment il organise son texte parce qu'on a pensé qu'à cette époque, Hugo a écrit avec la peine, avec le... Oui. Alors, on doit penser que le manuscrit doit être organisé d'une forme qu'on peut lire. Tout ça. Il y a beaucoup de corrections aussi, d'effacements, des notes dans les marges et beaucoup de dessins. Mmh. Beaucoup de dessins. C'est la chose que je plus j'aime de voir, c'est le dessin pour voir la tête de Hugo, comment ça fonctionne pendant l'écriture du roman. Mmh. C'est super. Mais à la fin du livre, il y a beaucoup de dessins, beaucoup. Il y a un petit plan de Paris avec les enceintes, c'est super. Il y a beaucoup de dessins de gens, il y a le Quasimodo aussi. Et à la fin, il y a beaucoup de, comment je peux dire, des morceaux de papier avec des notes et tout ça. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a écrit, parce que c'est compliqué de lire son écriture. Mais il y a beaucoup de matériaux pour étudier qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'il a construit dans cette époque. C'est super, c'est super.
Ouais. Alors, pour toi, finalement, que révèle, c'est, on va dire, les ratures, correction du manuscrit,
oui.
Le processus créatif dont tu parles,
ouais. Hugo. C'est comme un atelier de Hugo, c'est comme entrer dans l'atelier de Hugo. Mmh. Et pour ça, c'est super de voir comment un grand roman, un célèbre roman, a été construit, a été écrit. Pour moi, c'est fantastique de voir la tête de Hugo. Pendant l'écriture du roman, ouais.
Alors, tu parles d'écriture, tu parles de mise en page, ajout en marge. Alors, finalement, quoi, on va dire, cette matérialité du manuscrit influence-t-elle notre interprétation de l'œuvre?
Alors, la matérialité du manuscrit change notre lecture parce qu'elle montre comment le texte a été construit, comme je dis. On voit le texte évoluer, comment le texte va évoluer. Alors, le mise en page, les ajouts, les corrections, c'est le résultat d'un texte final. Alors, on peut voir les choix de Hugo. Pourquoi? Pourquoi les hésitations aussi, les modifications aussi. C'est dommage parce que on ne peut pas lire qu'est-ce qu'il fait le... Comment je peux dire ça?
Les ratures?
Oui, les ratures. Oui. On ne peut pas lire les ratures parce que c'est très intéressant de voir pourquoi il a changé ça. Oui, ouais, exactement. Mais le principal, c'est le manuscrit avec tout ça. influence notre interprétation du manuscrit. Quand on connaît le processus de création du roman, nous comprenons une dimension plus large de compréhension. Alors, un roman, un tableau ou une chanson, quand on connaît qu'est-ce qui s'est passé, c'est plus riche de voir tout ça. Alors, c'est super voir ces petites notes et dessins et ratures et tout ça. On peut voir les hésitations, les modifications et se demander pourquoi tu as changé ça ou ah oui, c'est mieux comme ça. Je sais pas. Alors, c'est comme entrer dans la tête de Hugo, plus ou moins. Ouais. Ouais.
D'accord, on va souffler un peu avec The Bells of Notre-Dame. Et nous revenons tout de suite en studio.
Morning in Paris, the city awakes to the bells of Notre-Dame.
The fisherman fishes,
the baker man bakes,
to the bells of Notre-Dame.
The big bells as loud as the thunder,
to the little bells soft as a song.
And some say the soul of the city is the toll of
the bells. The bells of Notre-Dame.
Long years ago did this story begin in this place called Notre-Dame.
Brothers were both taken in by the grace of Notre Dame.
Claude the Older, who cared for his brother,
young Jean, full of beauty and charm.
And they lived and they grew and awoke to the music of bells.
The bells.
Underneath these arches and this sacred hill, we are blessed to find our sanctuary and our home.
Righteous Claude Frollo was evermore drawn like a son to Notre Dame.
Not like his profligate brother Jean, who'd have none of Notre Dame.
Though as brothers they loved one another,
Frollo watched in despair and alarm.
As Jean grew more wild and defiled all the laws.
The laws of
must leave, Jean, this holy refuge where you've dwelled.
Leave, but father!
Sorry, Claude, but I've no choice. Your brother is expelled.
And Frollo didn't hear from his brother for several years.
Meanwhile,
Frollo ascended uncommonly fast through the ranks of
Notre Dame.
Till he was named the archdeacon at last and gave thanks to
Notre Dame.
And then one doleful day brought a message,
and the name that it bore was Cheyenne.
And concealing his face, Frollo stole to a place far away.
Away from Notre Dame.
The Bells of Notre-Dame, pièce de vertu très riche, à la fois narrative, symbolique et émotionnelle. Alors, Julia, comment est-ce que le manuscrit, on va dire, éclaire-t-il les intentions de Hugo concernant, bien sûr, la représentation de Notre-Dame, de Paris et la critique de son époque?
Alors, Hugo ne veut pas seulement raconter une histoire. Dans le roman, il veut montrer une vision de Paris, bien sûr, d'une forme romantique, mais de parler sur son époque aussi. Le 19e siècle, on sait, était très difficile pour les gens. Il y a beaucoup de choses qui a changé et tout ça. Et Victor Hugo, il était un homme de la politique. Alors, il toujours parle sur ça, sur les injustices et sur les droits. Mais dans Notre-Dame de Paris, il parle aussi de patrimoine, des monuments et de la destruction.
Oui.
Parce qu'au 19e siècle, beaucoup de bâtiments et de monuments ont été détruits pour ouvrir le grand boulevard, parce que Paris était trop vieux, c'est trop gothique. Alors au 19e siècle, oh non, on va ouvrir tout, Paris va être belle et tout ça, mais beaucoup de palais, beaucoup d'églises, beaucoup de monuments spéciaux ont été détruits dans tout ça. Et c'est pour ça que Hugo parle sur ça dans nos romans, et il joue avec la Notre-Dame de Paris, la cathédrale, comme un symbole d'une nation. Alors c'est le peuple. Alors Notre-Dame dans le roman, c'est une personnage aussi. Elle symbolise le peuple, la nation et l'histoire d'une ville et tout ça qui, au 19e siècle, il veut détruire et tout ça. Parce que la Notre-Dame de Hugo, au 19e siècle, était, comment je peux dire, pas détruite, mais était vide après la Révolution française, parce que beaucoup de choses a été volées et tout ça. Alors après la publication du roman, les gens qui a lu le roman,
oui,
partout avec les traductions et tout ça, ils sont allés à Paris pour connaître la cathédrale que Hugo a écrit, et pour ça les gens du gouverne,
oui,
il a pensé, ok, c'est l'heure de modifier, de restaurer la cathédrale, parce que la cathédrale, c'est un symbole de Paris. Alors, l'influence principale du roman, c'est ça, c'est la reconstruction, la restauration de Notre-Dame par le Viollet-le-Duc, bien sûr. Et au 19e siècle a commencé aussi cette perception de musée, de témoignages du passé, de monuments et tout ça. Alors Hugo a contribué pour cette
plus de visibilité,
oui,
restauration.
c'est ça. Alors Hugo dénonce la société dans son roman,
oui,
l'injustice. On peut voir sur Esmeralda, par exemple. Et principalement, la dégradation de l'architecture gothique, l'architecture médiévale. Alors, bien sûr, c'est un roman, alors tout est trop romantique et nostalgique et tout ça, mais il dénonce ça dans son roman. C'est fantastique penser que Notre-Dame de Paris, le roman, est dans le contexte historique. Et ça, le contexte historique, c'est le 19e siècle. Tout a changé à Paris. Et Hugo a écrit ce roman comme un témoignage de cette époque. Je peux dire ça, ouais.
Alors, une anecdote célèbre raconte que pour se concentrer, alors, Hugo s'était imposé, on va dire, une discipline radicale. Alors, il aurait enlevé ses vêtements et les aurait confiés à son domestique. pour ne pas sortir avant d'avoir écrit. Alors, à quoi on va dire cette anecdote montre-t-elle la stratégie du travail de Victor Hugo pour écrire Notre-Dame de Paris?
Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais ouais, c'est une anecdote, ouais. Mais quand Victor Hugo écrit Notre-Dame de Paris, il est encore très jeune, autour de 30 ans, mon âge. Imagine écrire un super roman à mon âge. C'est, pour moi, c'est super de penser ça. OK, et il doit respecter un délai imposé pour son lecteur, son premier éditeur, le Gosselin. Alors, il a beaucoup étudié. Notre-Dame de Paris a été publié 1831, mais il a commencé à étudier sur Paris et tout ça. Je pense que 1819, plus ou moins, 29, alors 3 ans avant. Mais il a pris du retard. Alors c'est pour ça que peut-être il a créé ses méthodes pour se concentrer. Et à cette époque, Hugo, environ 30 ans, son métier, son travail, c'est écriteur. Alors, il écrit pour gagner de l'argent et tout ça. C'est son travail. Alors, c'est pour ça peut-être qu'il a créé ses méthodes pour se concentrer et produire. Mais c'est intéressant, une curiosité, que Victor Hugo a habité partout à Paris. Il adorait se déménager. C'est incroyable. Et toutes ces notes de l'étude de Paris avant l'écriture du roman a été perdue. Ouais, était perdue. Et c'est pour ça que le manuscrit est très précieux. Parce que ces matériaux, ces études a été perdues.
Oui.
Et le manuscrit, c'est le matériel que nous avons aujourd'hui, que peut-être il y a des choses qui Victor Hugo a écrit là, qu'il se rappelait dans ses notes et tout ça. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois que oui, parce que c'est son travail. Et il est, ouais, et Victor Hugo, il adorait aller dans la vie de Paris pour... Ouais, on sait qu'il adore de fêter. Alors, c'est pour ça, je pense, oui. Et c'est une curiosité, ouais.
D'accord. Et Marie, écoute, là, on tire allègrement vers la fin de cette émission. Voilà, les bonnes choses finissent, voilà, finissent par finir. Alors, Julia, ton mot de fin?
Alors, pour moi, j'adore qu'est-ce que j'étude. Je pense que faire un doctorat sur un sujet, on doit aimer qu'est-ce qu'on étude parce que c'est trop long, c'est trop long, c'est un trajet long pour étudier et réfléchir et tout ça. Alors, j'ai la chance d'aimer qu'est-ce que j'étude. Et pour moi, travailler sur ces manuscrits, sur Hugo, sur le Paris au Moyen-Âge, c'est comme entrer dans la tête de Victor Hugo, entrer dans le 19e siècle de Hugo. C'est voir Paris au Moyen-Âge aussi. J'adore. Et on peut voir et voir la production d'un roman célèbre, voir qu'est-ce que Hugo a écrit, a pensé, a dessiné. C'est incroyable pour moi. C'est le témoignage de qu'il était vivant, qu'il a écrit, qu'il a fait. Et ma recherche, c'est une relecture de Notre-Dame de Paris. C'est une relecture où je peux voir Hugo dans son laboratoire fictionnel, mais aussi la Paris au Moyen-Âge que c'est ma part préférée. J'adore, j'adore. Et quand Hugo a écrit sur la Paris du Moyen-Âge, je sais, c'est très romantique, je sais. Mais moi, comme lecteur, pas chercheuse, mais pas comme un lecteur, c'est super de voir. Parce que j'ai dit, je peux sentir la ville, je peux écouter, je peux marcher sur les rues. Alors c'est très riche pour moi. Et comme chercheuse, c'est très intéressant cette évocation du Moyen-Âge au 19e siècle, qui est une époque qui a changé beaucoup de choses. Et le 19e siècle a contribué pour cette notion de qu'est-ce que c'est le Moyen-Âge. Le musée, le bâtiment, le monument, les églises gothiques et tout ça. Alors pour moi, c'est super. Oui, je peux dire que c'est super. J'aime qu'est-ce que j'ai tout déjà parlé sur ça. Et c'est ça. J'aime bien. Merci beaucoup.
Merci à toi, Maria. En tout cas, ici s'achève notre déambulation. Grand merci encore à toi, Maria Julia. Voilà, oui. Nos composés. Merci, bien sûr, à Clément, où c'est à Zoé et à Clairly pour la partie technique. Alors, nous avons franchi donc les siècles avec Julia Maria, ouvert le manuscrit, subi la trace d'une plume. Et ce que nous avons trouvé, ce n'est point seulement une ville, c'est une vision. Oui. Victor Hugo n'a pas restitué le Moyen-Âge. Il l'a recréé entre vérité et imagination, entre mémoire et invention. Il a donné forme à un passé que nous continuons d'habiter. Mais bien sûr, auditeurs, auditrices, souvenez-vous. Chaque époque écrit son histoire. Chaque regard façonne son passé, et peut-être le Moyen-Âge que nous voyons aujourd'hui n'est-il que le reflet de ceux qui l'ont rêvé avant nous, bien sûr. Alors, voyageurs, quel passé êtes-vous en train d'inventer? Ciao, ciao. Thank you.
Les chemins de traverse de la recherche.
Radio Campus Grenoble
90.8888.